Vous écoutez le podcast Linguisticae. Les noms et prénoms, le choix des parents, les modes et leurs impacts. Cet épisode a été écrit par Monté de Linguisticae et nous vous souhaitons une bonne écoute. Dans un podcast sorti il y a peu de temps, j'ai mentionné que les noms de famille sont apparus au Moyen-Âge en Europe, mais qu'ils avaient existé durant l'Antiquité. Ils avaient en quelque sorte disparu avant de refaire surface sous une autre forme. Et cette affirmation pose un certain nombre de questions. La première, évidemment, c'est pourquoi ? Pourquoi a-t-on perdu un outil aussi pratique que le nom de famille ? Comment ? À quel moment exactement ? Eh bien, pour y répondre, il nous faut retourner durant l'Antiquité. Nous voilà alors dans l'Empire romain, ayant conquis la Méditerranée, la Gaule et la Grande-Bretagne. Originaire d'Italie, la société romaine se divise en trois ensembles qui rappellent aussi le monde grec. Les esclaves, les citoyens plébéiens et les citoyens patriciens. Les citoyens, ce sont ceux qui peuvent voter ou être élus, qui ont le droit de propriété ou de la léguer, qui ont le droit de se marier ou de porter la toge. Pour eux, les peines sont aussi plus indulgentes et la justice leur est globalement plus favorable. Leurs droits ont fluctué à travers les époques de la Rome antique. Certains de ces droits ne concernent que les hommes, d'autres sont sur condition de ressources, comme le droit d'être élu magistrat par exemple. Comme il vient de l'être dit, les citoyens sont eux-mêmes divisés en deux catégories, les patriciens et les plébéiens. Les premiers, les patriciens, forment la classe supérieure de la société romaine. À l'origine, la classe patricienne se divise en plusieurs gens, qui sont des clans familiaux liés à un patriarche, et qui finissent alors par se diviser en sous-familles. Or, chez les Romains, on porte trois noms, c'est ce qu'on appelle le tria nomina. Et cette particularité, elle est directement liée à ce système social. Le premier de ces noms, c'est le praenomen, c'est-à-dire le prénom. Il est lié à une particularité ou à un ancêtre. On s'appelle Lucius si on est né à l'aube, par exemple, puisque cela fait alors écho à Lux, la lumière. Il existait au total une douzaine de prénoms courants, les autres étant tout à fait exceptionnels. Parfois, le prénom indiquait seulement sa position dans l'ordre des naissances. Quintus, le cinquième. Septimus, le septième. Octavius, le huitième. Le prénom n'est donc à l'origine pas très déterminant. Il est d'ailleurs peu mentionné, sauf s'il a une fonction démarcative. Pour distinguer deux frères de la même famille, par exemple. Le second nom, plus important, est le nomen, c'est-à-dire le nom, tout simplement. Il correspond en réalité au nom du clan familial, qui donne l'information sur le statut social. Il correspond à notre nom de famille aujourd'hui. Ainsi, si quelqu'un ayant un nomen donné devient consul, tous ceux qui portent ce nom peuvent être considérés comme consulaires. Avec le nomen, le prestige est partagé, il s'agit de la même dynastie. De fait, la plupart du temps, ce nom est lié au même patriarche, c'est-à-dire au même chef de famille. Le troisième nom de ce tria nomina, finalement, eh bien, c'est le cognomen, c'est-à-dire le surnom. Celui-ci, comme aujourd'hui, peut changer à travers le temps pour une même personne. Dans mon cas, ce serait Monté, surnom que l'on m'attribue le plus souvent, mais pour d'autres, cela a pu être Kikero, ce qui veut dire pois chiche, qui sera francisé en Cicéron, ou encore Caligula, petite sandale, nom d'un empereur romain. À ce cognomen, si vous êtes illustre, empereur, général vainqueur, on peut même rajouter un autre nom qui à terme peut devenir un titre, comme Germanicus, le germain, ou encore Augustus, l'illustre. Ce cognomen, c'est-à-dire ce surnom chez les patriciens, désigne souvent la branche familiale de votre clan. Dans les faits, donc, c'est comme un deuxième nom de famille, mais en plus précis. Pour donner une image, c'est comme s'il s'agissait d'une autre maison de la même dynastie dans le système féodal. Et chez les Romains, parfois, à tout cela, on peut aussi rajouter une mention pour désigner son père ou son grand-père. Pour comprendre tout ce qui vient d'être dit, prenons quelques exemples de personnages romains dont vous avez forcément déjà entendu parler. Caius Iulius Caesar, le quatrième du nom, Publius Cornelius Scipio Africanus, Marcus Antonius Marci Filius Marci Nepos. Le premier, Gaius Iulius Caesar le quatrième, vous l'avez sûrement reconnu. Il s'agit de Jules César, dont le prénom n'était alors pas Jules, mais Gaius. En effet, Jules est la traduction de Iulius, qui fait référence à sa gens, à son clan. Il s'agit d'ailleurs d'un clan assez vieux qui se divise en deux ensembles, les Iulii Caesar et les Iulii Iulii. Caesar est donc ici un cognomen qui correspond à la branche de son clan. C'est aussi le quatrième du nom, puisque son père et son grand-père s'appelaient aussi Gaius Iulius Caesar. Le deuxième nom cité, Publius Cornelius Scipio Africanus, C'est un peu plus compliqué, mais vous l'avez peut-être. On le trouve chez Astérix notamment, c'est Scipion l'Africain. Son prénom est Publius et son nom de famille est Cornelius, puisqu'il vient du clan des Cornélii, qui possède de nombreuses branches, dont celle des Cornélii Scipiones. Par tradition, il forme une famille romaine pratiquant l'inhumation en tombeau et ayant donné beaucoup de généraux. Le nom Africanus, quant à lui, Africain, est un ajout qui fait référence à sa campagne en Afrique. Le troisième nom que j'ai évoqué, Marcus Antonius Marcifilius Marcinepos, vous l'avez peut-être aussi. Il s'agit de Marc-Antoine, dont on a l'impression en français qu'il ne porte qu'un seul prénom composé. Pourtant ici, Marcus est le prénom et Antonius est son nens, correspondant à son clan, à sa gens. Marcifilius signifie « fils de Marcus », fils de Marc, et Marcinepos signifie « petit-fils de Marcus », petit-fils de Marc. Marc-Antoine n'avait en effet pas de cognomène, il n'avait pas de surnom. C'est alors ce qui permettait de le singulariser parmi tous les autres. Tout ce fonctionnement correspondait alors aux citoyens patriciens qui étaient la couche haute de la société romaine, qui demeurait néanmoins très minoritaire à l'échelle démographique de l'Empire. Cependant, les citoyens plébéiens, la plèbe donc, les couches les plus modestes, ont fini par adopter le même modèle. Les esclaves affranchis et adoptés, quant à eux, adoptaient le nomen et le cognomen de l'adoptant ou de leur ancien maître. Ils y rajoutaient éventuellement un second cognomen placé à la fin de leur nom, qui correspondait à leur ancienne identité ou à leur origine. Ainsi, quand César adopte Octave, le futur empereur, Octavius devient Gaius Iulius Caesar Octavianus, puisqu'il reprend le nom de Gaius Iulius Caesar, son père adoptif. À partir de cette époque, pourtant, il n'est absolument pas certain que Octavianus ait servi comme cognomen pour Octave. En réalité, les gens l'appellent plutôt Caesar, et une fois devenu empereur, il se fait appeler Caius Iulius Caesar Augustus, Augustus signifiant le plus illustre. À sa mort, comme beaucoup d'empereurs romains, il est divinisé. Il est alors nommé Imperator Caesar Divi Filius Augustus, soit Empereur César, fils de Dieu, le plus illustre. C'est à partir de ce moment que Caesar, qui était alors le cognomène de Jules César, finit par devenir lui-même un titre impérial, un mot désignant une fonction. Il donnera d'ailleurs le mot allemand Kaiser, signifiant empereur, ou encore le mot russe Tsar, signifiant la même chose. Le système de tria nomina romain, le système des trois noms, avec le temps, notamment durant l'Empire et à partir du 1er siècle, eh bien il évolue. Le praenomen, le prénom, peu utilisé et très peu distinctif, car n'existant surtout que sous 12 formes différentes, rappelons-le, cède sa place au cognomen, au surnom, qui est bien plus varié et donc bien plus distinctif. Le nomen, le nom, quant à lui, demeure un temps mais souffre du même problème. De très nombreuses familles possèdent le même nom, renvoyant au même clan. Et il devient difficile de distinguer les individus sur cette seule base. De plus, de très nombreux esclaves affranchis portent le même nom, Aurelius, à l'image de la moitié des empereurs du IIIe siècle qui s'appellent Marcus Aurelius, Marc Aurel. Ainsi, en fonction des régions, on abandonne le prénom, le nom ou les deux. Lorsque la nouvelle aristocratie germanique s'installe sur les ruines de l'Empire romain alors en décadence, beaucoup imitent leurs usages culturels. Or, ces Germains n'avaient à leur arrivée aucun nom de famille, mais une très grande variété de prénoms imagés qui sont restés très utilisés jusqu'à aujourd'hui. Bernard, ours fort, Bertrand, corbeau brillant, Charles, homme libre, Louis, combat glorieux, et toutes les variantes féminines. C'est ainsi que durant la première partie du Moyen-Âge, les noms et les prénoms romains ayant disparu, ce sont les surnoms germaniques qui s'imposent en lieu et place pour désigner les personnes. Puis, avec le temps, durant le Moyen-Âge, les familles nobles européennes ont commencé à se désigner en fonction de leur région, de leur domaine, créant ainsi de fait de nouveaux noms territoriaux. Puis, entre le XIIe et le XIVe siècle, le besoin de distinguer les gens plus précisément s'est fait sentir. Alors, le nom de la localité a pu servir à distinguer deux personnes du même prénom, tout comme le métier, une particularité physique, le nom du père, le nom de la mère. D'ailleurs, à l'origine, lorsque le nom commence à se transmettre, il pouvait être hérité de la mère, surtout si son statut social était plus élevé. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, nous sommes arrivés au système actuel. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. En espérant que vous avez passé un bon moment, c'était le podcast Linguisticae. Nous vous souhaitons une bonne soirée.